Recevez de la part de Dieu la grâce, la paix, la joie dans votre cœur, au cœur même de votre existence, dans ce qu'il y a de plus intime et de plus vrai en vous. Dieu nous accueille et se réjouit de nous voir ainsi réunis, réunis notamment autour de Fabrice et de Marion qui ont demandé que leur fils reçoive le signe du baptême, et c'est un désir que nous accueillons avec beaucoup de joie. Avant même que nous cherchions Dieu, il nous a trouvés. Avant que nous le connaissions, il nous a connus. Avant que nous venions ici, il nous avait convoqués. Ce culte est donc pour nous l'occasion d'une réponse à cet appel à célébrer la vie. Alors, pour manifester notre enthousiasme, levons-nous pour chanter Dieu avec le premier répond indiqué sur le livret qui figure au début de nos psautiers français, « Bénissons Dieu, le seul Seigneur ». Oui, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom, que mes mains te louent par leurs gestes, que mes pas te louent par leur chemin, que mes lèvres te bénissent à travers leurs chants, que mes yeux te célèbrent en reflétant ta lumière, que mes oreilles te répondent en écoutant ta voix, que ma mémoire te rende grâce en rappelant tes délivrances, que mon intelligence te loue en cherchant la voie de ta sagesse, que ma volonté t'honore en se faisant servante de la tienne, que mon cœur te loue en aimant de ton amour, que ma force te loue en s'offrant à toi, que mon corps demeure de l'esprit, te loue sans cesse, que tout en moi te rende gloire. Amen. Toujours dans notre psautier français, ouvrons notre recueil au psaume 98. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 de ce psaume. Prenons place. Fabrice et Marion ont donc demandé que leur enfant reçoive ce matin le baptême. Et pour l'Église, c'est non seulement l'occasion d'accueillir avec joie cette demande, mais une manière pour nous d'accomplir la mission qui nous a été confiée, puisqu'en effet, au moment de quitter ses disciples, du moins ce que, selon l'évangéliste Matthieu, nous avons reçu comme témoignage, Jésus laisse comme dernière consigne ses paroles. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous nous recueillons dans la prière. Éternel notre Dieu, un jour nous avons été baptisés. Pardonne-nous de l'oublier. Nous avons été baptisés au nom du Père, mais aimons-nous vraiment de notre cœur? Savons-nous dire et montrer que nous sommes enfant de Dieu, enfant de la vie? Force est de constater que bien souvent, nous nous écartons de l'espérance formulée dans les textes bibliques et force est de constater que nous voulons marcher seuls. Nous avons été baptisés au nom du Fils, mais aimons-nous véritablement ce prochain que le Fils a désigné? Force est de constater là aussi que nous cherchons souvent notre propre intérêt au lieu de servir. Nous avons été baptisés au nom de l'Esprit. Et combien de fois avons-nous véritablement porté les fruits de l'amour, de la fidélité, de la joie? Alors nous t'en prions, accorde-nous ton pardon et donne-nous de vivre dans ta paix et à ton service. Amen. Voici quelques extraits bibliques qui peuvent constituer une sorte de réponse à notre prière. Tout d'abord cet oracle, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous mon esprit, je serai votre père, vous serez mes fils, mes filles. Et puis cette parole dans les évangiles, celui qui écoute ma parole, dit Jésus, et qui croit en celui qui m'a envoyé, celui-là a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Passé de la mort à la vie. Voilà bien la dynamique signifiée par le baptême. C'est ainsi que Dieu nous met au cœur l'assurance de son pardon. Eh bien, levons-nous pour chanter notre reconnaissance. La foi, c'est le fait d'être saisi par cet appel à la liberté que nous nommons Dieu. Comme Abraham, nous sommes libres de ne pas reproduire les modèles familiaux en tout point. Comme Tamar, nous sommes libres de transgresser ce qui empêche la vie de s'épanouir. Comme Moïse, nous sommes libres de ne pas demeurer esclaves de la volonté des autres. Comme Samuel, nous sommes libres de répondre présent aux défis qui se présentent. Comme David, nous sommes libres de ne pas nous entêter sur une voie qui ne mène nulle part. Comme Esdras, nous sommes libres de faire entendre des paroles qui favorisent la communion. Comme Marie, nous sommes libres de nous engager dans l'aventure de la vie. Comme Jésus, nous sommes libres d'aimer et de ressusciter en permanence le désir de vivre selon l'amour. Comme Paul, nous sommes libres d'être solidaires. Comme Martin Luther, nous sommes libres d'être l'esclave de tous. Comme Schleiermacher, nous sommes libres de penser la foi. Comme Karl Barth, nous sommes libres de protester pour la grandeur de Dieu. Comme Martin Luther King, nous sommes libres de protester pour l'honneur de l'homme. Comme Dorothée Soele, nous sommes libres de protester pour la paix. Avoir foi en Dieu, c'est adhérer de tout notre être à cet appel à la liberté. Un appel qui retentit non seulement dans les archives bibliques, mais en chaque dimension de notre existence, dans notre présent. Cet appel à la liberté qui fait de nous une personne responsable. Amen. Place. Je le disais, c'est à la fois un véritable plaisir de vous accueillir dans cette demande de baptême, et puis c'est aussi l'occasion pour nous d'accomplir notre vocation, de faire foi. Nous allons changer de procédé. C'est l'occasion de vous accueillir avec plaisir et c'est aussi l'occasion de faire droit à notre divine vocation, cette vocation qui consiste à faire place à celles et ceux que la vie nous offre. Après Élise et César, voici donc Timothée que nous allons avoir l'occasion d'accueillir tout spécialement. Nous avons l'habitude, à travers le livre du Deutéronome, à travers le livre de Josué, d'entendre qu'il est de la responsabilité des enfants d'interroger d'interroger les parents, de leur demander ce que signifient ces gestes d'église, ces actes de mémoire. Mais nous pouvons aussi laisser les enfants être nos catéchètes, donner du sens à ce que nous vivons. Et c'est la raison pour laquelle je vais appeler ta sœur, Élise, pour qu'elle donne un peu de sens à ce baptême qui va être ton baptême.
Comme Dieu a dit au Christ baptisé au Jourdain, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aujourd'hui, il déclare à Timothée, « Tu es mon enfant, tu ne le sais pas encore, mais je t'adopte et je te connais par ton nom, je t'aime d'un amour éternel. » Aussi certainement que l'eau va couler sur le front de Timothée, aussi certainement que cette parole est vraie, Dieu nous a aimés le premier, le baptême est le signe, Dieu y engage sa parole.
Reste avec nous. Je vais, avec parrain et marraine, vous demander de bien vouloir vous approcher maintenant du baptistère. En demandant le baptême de Timothée, vous avez exprimé donc le désir qu'il reçoive le signe de la grâce de Dieu. Peut-être serait-ce bien, Fabrice, que vous le preniez dans vos bras pour qu'il soit plus visible de cette communauté qui l'accueille. Approchez-vous tous les deux. Timothée, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Timothée, l'Éternel tourne vers toi son regard, un regard d'amour, un regard bienveillant. Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, dit l'Éternel, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel.
Frères et sœurs, voici Timothée. Timothée, voici ta famille. Timothée, tu es ici chez toi. Ce lieu est une partie de ta maison. Il aura la liberté d'occuper sa place ou non, bien entendu. Il a supposé qu'il s'en éloigne. Eh bien, vous serez témoin de l'amour indéfectible de Dieu en disant que sa place est à jamais marquée. Puis Timothée, ce sera notre joie qu'un jour tu confesses ta foi chrétienne avec enthousiasme et humilité si tu le souhaites.
Le baptême est une étape sur ce chemin spirituel qui est le tien, Timothée. Cette famille spirituelle est là pour te soutenir, aussi bien par la prière que par tous les gestes et toutes les attitudes qui seront nécessaires pour que tu puisses t'épanouir et être à ton tour un adulte responsable. Mais il est vrai que autour de toi, il y a une communauté familiale qui aura particulièrement cette responsabilité. Je vais donc laisser le soin à tes parents d'exprimer en quelques mots ce qu'ils espèrent pour toi et de quelle manière ils entendent concrétiser cette espérance.
Donc, en tant que parents, nous avons le plaisir d'accueillir et de vivre tous les jours avec Timothée, dont la personnalité et la joie de vivre nous enchantent.
En tant que chrétien, nous nous engageons à lui permettre de grandir dans le respect de sa personnalité, tout en le guidant vers des valeurs de respect et de bonté envers ses prochains.
Par ce baptême, nous souhaitons aussi te donner, Timothée, les clés pour te construire en homme libre et bienveillant.
Élise, César et nous deux, tes parents, nous serons à tes côtés pour t'accompagner, afin que tu traces ta route, celle dans laquelle tu t'épanouiras.
Et enfin, nous comptons sur ton parrain, Laurent, et ta marraine, Juliette, pour t'encourager dans cette voie et t'apporter toute l'affection nécessaire.
Et ce sont justement ton parrain et ta marraine qui vont accomplir ce moment du baptême. Nous allons nous unir dans la prière pour rendre grâce pour ce moment, rendre grâce pour ta présence parmi nous. Et ce sont ton parrain et ta marraine qui nous donneront les mots pour cela.
Père, nous te louons et te disons notre joie pour Timothée, qui vient de recevoir le baptême. Nous savons que tu l'aimes et que tu l'appelles à entendre ta parole. Nous avons accepté d'être le parrain et la marraine de Timothée et l'accompagnerons dans sa quête de Dieu et serons à ses côtés dans sa vie d'homme et de baptisé.
Père, tu reçois dans ton Église Timothée qui est appelé à recevoir dès maintenant la vie éternelle. Donne-lui et donne-nous la force de répondre à ton appel et d'être fidèle à ton amour. Amen.
Je vous invite à regagner votre place et nous allons maintenant nous mettre à l'écoute d'un texte biblique.
Nous lisons dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, les versets 1 à 7. La femme d'un des fils de prophète implora Élisée. Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait le Seigneur. Or, le créancier est venu dans l'intention de prendre mes deux fils comme esclaves. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, que possèdes-tu chez toi ?» Et elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout chez elle, si ce n'est un peu d'huile. » Il dit, « Va emprunter des vases chez tous tes voisins, des vases vides, le plus que tu pourras. Et puis rentre, ferme la porte sur toi et sur tes fils et verse dans ces vases. Chaque vase, une fois rempli, tu le mettras de côté. » Elle le quitta, ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui présentaient les vases et elle versait. Et quand les vases furent remplis, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Et il lui répondit, « Il n'y en a plus. » Alors, l'huile cessa de couler. Elle vint en informer l'homme de Dieu qui dit, « Va, vends l'huile et paye ta dette. Ensuite, tu vivras, toi ainsi que tes fils, avec ce qui restera. » Nous chantons au cantique 204 les strophes 1 et 2. Nous prions. Seigneur, comme tu nous accueilles et comme tu nous montres par ce geste du baptême que tu es toujours là, avant nous, ta parole aussi nous précède et nous accompagne. Aide-nous à l'entendre, à l'écouter et à faire qu'elle résonne en nous pour nous donner encore cette liberté que tu nous offres et cet engagement que tu nous promets. Amen. Chers amis, ce début du livre des Rois cette fois-ci, on y va. Donc, toujours, chers amis, ce début du deuxième livre des Rois nous présente une série d'épisodes qui sont liés à ce prophète Élisée, entre les chapitres 2 et 13. Élisée représente une grande tradition prophétique du royaume du Nord. Vous savez qu'à ce moment-là, il y a deux royaumes, celui du Nord et celui du Sud. Et ce royaume du Nord n'en a plus pour très longtemps, il va bientôt être détruit. Élisée, ce prophète, est engagé dans la vie politique de ce royaume. Il va même organiser un coup d'État pour changer la dynastie régnante. Et dans ce royaume-là, dans le royaume du Nord, on vit un petit peu différemment que dans celui du Sud, qui est complètement centré autour de Jérusalem, où Jérusalem est vraiment le centre de tout. Ce royaume du Nord est moins centralisé, moins centralisateur. La vie s'organise autrement. Il y a plus d'espace pour une vie moins urbaine, pour des traditions de village. Mais il y a aussi une dynastie très forte de rois qui va assurer une certaine prospérité à ce royaume, mais au prix de coûts sociaux élevés, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas la même chance de profiter de la prospérité. De plus, ce royaume du Nord est un royaume qui n'a pas bonne presse dans le livre des Rois, car ces livres sont majoritairement écrits par ceux du Sud. Et vous savez comme c'est dans ces cas-là, on a un peu tendance à penser au Sud qu'il n'y a pas grand-chose de bon à tirer de ce royaume du Nord. Donc, quand nous commençons, nous, à lire ces textes, nous entrons déjà dans une discussion qui nous précède, dans des interprétations, dans un conflit de traditions, dans des visions différentes du monde que nous offrent ces textes. Nous ne pouvons pas donc lire ces textes comme si de rien n'était, comme si on pouvait accéder directement à l'histoire en toute objectivité. Ces textes ont des partis pris, les partis pris de ceux qui les écrivent, comme nous avons des partis pris, les partis pris de ceux qui les lisent. Ce sont nos expériences, notre façon de voir la vie qui nous les font lire d'une certaine façon. Et la théologie que nous pouvons en faire, que nous essayons de faire, est toujours seconde par rapport à nos expériences. En d'autres mots, les théologies, nos théologies, toutes les théologies sont contextuelles, aussi bien celles des rédacteurs de ces textes que les nôtres, celles des lecteurs et des lectrices. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que ce texte, ce petit texte, sept versets, je les promenais dans différents contextes. Il m'arrive souvent actuellement d'enseigner à l'Institut protestant de Paris, où je suis professeur d'Ancien Testament, mais je l'ai aussi travaillé à la faculté de théologie protestante à Managua, au Nicaragua, où j'enseigne aussi parfois, ou de l'utiliser dans des formations de prédicateurs laïcs, de méthodistes ghanéens ou ivoiriens en Italie, ou d'organiser des sessions de lecture biblique avec des femmes de tradition maya au Chiapas, au Mexique. Et chaque fois, je mesure concrètement combien à la fois nos expériences de vie sont au cœur de nos théologies et combien aussi ces textes qui nous parlent en métaphores, en images très fortes, peuvent sans cesse venir réinterroger nos expériences. C'est là tout le souffle de l'inspiration qui n'est pas sclérosé dans un écrit tellement saint qu'il en deviendrait intouchable et qui n'est pas non plus prisonnier de notre logique et de notre vision du monde. Mais revenons à l'histoire d'Élisée et à ses urgences. Le texte que nous venons d'entendre, au chapitre 4, est donc un des premiers épisodes qui le concerne, et c'est un récit de miracle, très ramassé, concentré, en peu de versets. On y trouve plusieurs caractéristiques des textes de miracle. D'abord, on expose la situation, tout ce qui ne va pas, et puis c'est la rencontre du prophète et la réalisation du miracle qui transforme la situation, et il faut finalement que quelqu'un reconnaisse ce miracle. Le premier verset nous expose donc cette situation, une situation bloquée, dramatique, de grande précarité. On entend une femme crier. Elle parle de mort, de créanciers et d'esclaves. Cette femme exprime en quelques mots l'étau qui se resserre sur elle. Elle a perdu son mari, qui était un prophète du groupe d'Élisée. Le type de prophétisme que Élisée semble avoir vécu était souvent caractérisé par cette vie dans des groupes de prophètes. Donc elle a perdu son mari et maintenant elle risque de perdre ses deux fils d'une autre sorte de mort, soumis à l'esclavage à cause des dettes qui s'accumulent et qu'elle ne peut plus payer. L'argent qui dévore la vie, la précarité qui entraîne toujours plus de précarité, que ce soit au 8e siècle avant Jésus-Christ en Palestine, ou à Paris, ou au Nicaragua, ça a toujours la même violence mortifère. On peut reconnaître en cette femme une des victimes de la pauvreté qui reste un élément constitutif de notre monde qui pourtant revendique tant d'évolution. On comprend bien dans quel état peut se trouver cette femme qui, comme beaucoup d'autres dans les textes bibliques d'ailleurs, n'a pas de nom, n'est pas très identifiable. Est-ce juste la femme de son mari, prophète ? Est-ce une femme prophétesse elle-même ? Les paris sont ouverts, et nos interprétations aussi. Les mots du texte montrent en tout cas le basculement de sa vie. Le mot traduit ici par « esclave » est le même que celui traduit par « serviteur » dans le cas du mari, au service et actif dans le groupe de prophètes lié à Élisée. Ce même mot sert donc à opposer deux réalités complètement différentes. Un homme au service et actif d'un groupe prophétique et deux enfants emmenés en esclavage par manque de ressources. La disparition de ce serviteur a donc pour conséquence le fait totalement injuste que deux enfants soient emmenés en esclavage dans une autre maison par manque de ressources. Tout est donc décrit ici dans cette première situation comme détresse, manque, perte. En finale, le dernier verset montre comment les choses se sont renversées. Et cette fois, c'est une parole d'Élisée qui dit cette nouvelle réalité. Il y a abondance maintenant, abondance d'huile qui va permettre de payer la dette. Le mot employé ici pour payer n'évoque pas une simple action commerciale, monétaire. Il signifie en fait combler totalement. C'est la même racine que le fameux mot « shalom » que l'on connaît, qui traduit la paix, mais surtout la plénitude. Et il y a du reste qui va faire vivre toute la famille. Le « tu vivras » de la fin s'oppose à la phrase « mon mari est mort » du début, et le « tu vivras avec tes deux fils » s'oppose au « prendre mes deux fils » que nous avions dans le cri de cette femme. Mais comme chacun des récits de miracles qu'on trouve dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, celui-ci a sa propre couleur, sa propre saveur, ses caractéristiques. Alors regardons d'un peu plus près comment il nous est raconté. En premier lieu, on peut se demander s'il y a un acteur principal dans ce récit, un héros. Évidemment, il y a le prophète Élisée. Il en est ici à ses débuts et il semble que ce récit serve davantage à le qualifier comme héros, puisque on le nomme d'abord deux fois par son prénom, Élisée, qui contient le mot « elle », qui est le nom de Dieu, et puis à la fin, on l'appelle l'homme de Dieu. On reconnaît donc qu'il est au service d'une cause plus grande que lui-même. Et comme nous l'avons observé, c'est aussi lui qui a le dernier mot dans l'histoire. Ça lui donne donc une certaine importance. Mais finalement, il est assez en retrait. On ne sait pas où il se trouve exactement. Il n'est en tout cas pas dans un lieu officiel repéré qui lui donnerait un statut. Et il ne semble pas bouger du début à la fin. Il ne fait rien, il n'agit pas, il ne se démène pas dans tous les sens et sur tous les fronts, comme un pasteur, comme un animateur ou un bénévole d'une association d'entraide. Il n'intervient pas non plus comme un expert, détenteur de la théorie qui va amener la solution au problème. Il ne fait que donner des ordres à cette femme, beaucoup d'ordres, 7 en tout, au verset 5. 7 verbes à l'impératif. Dans les traductions, on ne les voit pas tous, mais ils sont là. 7, c'est-à-dire un ensemble, une totalité d'ordres. Élisée ne fait que parler, c'est un miracle par la parole. Il n'y a aucun geste magique, pas le plus petit rituel, pas la moindre prière même. On n'est pas dans un show pour montrer la puissance d'un Dieu qui peut tout faire, qui a réponse à tout, qui s'étalerait, qui remplirait tous les vides, tous les interstices. Élisée n'a pas une théologie envahissante. Il n'a pas non plus un contrat à faire signer à cette femme pour lui demander de suivre une formation, de faire un projet pour lui apprendre à être responsable ou à mieux gérer ses finances. Et Élisée n'est même pas présent au moment du miracle, qui a lieu toute porte fermée dans la maison de cette femme, dans la plus grande discrétion. Le narrateur nous laisse en quelque sorte regarder par une petite fenêtre ce qui se passe à l'intérieur, mais Élisée, lui, n'y est pas. On ne peut donc pas dire qu'il tire avantage de son rôle pour se mettre en avant, bien au contraire. Tout ça ne va même pas l'aider pour demander des subventions pour l'année suivante pour son groupe de prophètes. Mais il sait poser la bonne question au bon moment pour lancer la dynamique. Il lui offre de l'aide en s'impliquant. Qu'est-ce que je peux faire ? Mais il lui donne aussi le premier rôle en lui demandant ce qu'elle est là à disposition. Il propose de faire avec ses ressources, ses idées à elle. Et des idées, elle en a. Il suffit de lui laisser la parole. L'idée de l'huile, c'est elle qui l'a. Donc, si on cherche un héros dans cette histoire, il y a aussi la femme, qui refuse de se laisser vaincre par l'adversité, une héroïne du quotidien, qui dépense toute son énergie pour tenter de survivre, qui va et qui vient à la recherche d'une solution. Même au fond de son désespoir, elle a encore de l'espoir. Elle ne se résigne pas, car elle en passe du temps et de l'énergie à chercher une solution à ses problèmes. En ces quelques versets, elle a le temps de faire deux fois l'aller-retour chez Élisée, avec entre-temps une visite chez tous les voisins pour rassembler le maximum de contenants pour son huile, avec toute l'énergie de son désespoir. Et tout ce travail-là, invisible, n'est d'ailleurs même pas mentionné. Il est inscrit entre deux verbes, « elle le quitta », Élisée, et elle ferma la porte sur elle. Tout ce travail-là n'est même pas écrit noir sur blanc, mais c'est à cet espace-là que le texte nous renvoie, nous, les lecteurs et les lectrices. C'est le moment où tout le monde intervient, où il faut rassembler les contenants et d'abord y croire assez pour aller les demander aux voisines. Et ça, c'est une expérience que les lecteurs et les lectrices du Chiapas, du Nicaragua ou du Ghana connaissent bien. Ils la voient immédiatement dans les blancs du récit. Sans doute parce que la pauvreté chez les riches se manifeste en plus par l'exclusion, alors que la pauvreté dans un pays où la majorité des gens sont pauvres se vit davantage dans la solidarité. Dans cet espace-là, dans celui du « rassembler les contenants », ou on pourrait dire aussi de trouver les outils pour faire changer les choses, il y a toute cette activité magnifique et cruelle de tellement de gens, de femmes, d'hommes, qui chaque jour se démènent pour survivre, qui font des petits boulots, qui travaillent dans l'économie informelle, qui inventent des réseaux de solidarité, qui parlent avec leurs voisins. C'est au cœur de ce quotidien-là que peuvent avoir lieu des miracles, nous annonce-t-on ici. Et c'est vrai qu'au Nicaragua ou ailleurs, ce genre de miracle a lieu souvent. Miracle de gestes de solidarité, miracle d'invention à plusieurs, de prise de parole de celles et ceux qu'on n'écoute pas, miracle pour celles et ceux qui croient que si on rassemble les contenants, le Dieu de la vie fera le reste. On peut donc tout aussi bien raconter l'histoire à partir d'elle, en faire l'héroïne. Il n'y a pas de verset où elle ne soit présente et elle est le sujet de toutes les initiatives. Elle implore, elle répond en amenant l'idée de l'huile, elle quitte Élisée et va accomplir tout ce qu'il lui a dit de faire, elle revient l'informer du miracle. Elle dit oui à la vie et non à la mort, avec les moyens qu'elle a. C'est donc avant tout un miracle de la parole et surtout du dialogue. Si on privilégie cette piste, on peut aussi découper ce texte à partir des dialogues qui y figurent et qui le structurent. Un premier double dialogue entre la femme et Élisée, puis l'opération de remplissage, avec à l'intérieur de cette opération un dialogue entre cette femme et son fils, et puis à nouveau un dialogue entre la femme et Élisée qui ne nous est rapporté qu'à moitié. Dans ce cas, le rôle des deux personnages est très imbriqué. Et il permet de mettre en relief ce dialogue particulier, celui de la femme avec son fils, dans la belle séquence du verset 5 et 6, où on voit l'activité des trois complètement coordonnée, comme un flux continu, à l'image de l'huile qui coule et qui s'achève lorsqu'il n'y a plus de vase. C'est là qu'on trouve un dialogue avec un des fils, distingué comme une personne et non plus pris dans le bloc de « mes deux fils » comme au début. Le miracle est donc là fait de paroles, de contact avec les voisins et d'une coopération familiale au cœur du quotidien dans un geste très concret qui pourrait paraître des plus insignifiants, remplir des pots ensemble. Et c'est la solidarité des voisins, le dialogue entre les générations qui ouvre sur cette nouvelle économie familiale et donne une nouvelle visibilité à cette femme. C'est aussi d'ailleurs un miracle où Dieu est très discret. Il n'est mentionné que deux fois, uniquement comme référent et pas comme acteur. « Ton serviteur craignait le Seigneur », dit la femme au début, « Élisée, l'homme de Dieu », à la fin. Il suffit que ces références encadrent le récit. Pas besoin de plus pour savoir qu'on peut trouver ce Dieu-là au cœur du quotidien comme celui qui nourrit son peuple. J'ai repensé à ce texte en écoutant il y a quelques jours à l'Institut protestant une conférence brillante d'une économiste de très haut niveau, Esther Duflo, chargée d'une chaire de savoir contre les pauvretés au Collège de France, pas vraiment un membre du groupe des prophètes d'Élysée. Et pourtant, avec d'autres mots, elle disait des choses bien proches. Elle plaidait pour une réflexion économique basée sur les expérimentations créatives de terrain. Et on pourrait finalement tout à fait désigner ce petit récit de miracle d'Élysée comme une expérimentation créative de terrain. Parce que ces expérimentations, elles ont un pouvoir subversif, dit-elle, que n'ont ni les expériences de laboratoire, ni les évaluations rétrospectives de programmes. Le titre de sa conférence était « L'espoir contre la pauvreté ». Partant du constat qu'on a une vision différente du présent et du futur si on est riche, donc protégé, ou si l'on est pauvre, elle soutenait que le premier élément nécessaire à toute politique de lutte contre la pauvreté, c'est l'espoir. Car s'il n'y a plus d'espoir chez les agents sociaux, comme on dit, chez les gens, alors aucune mesure, aucun programme, aucune planification ne peut fonctionner. Le récit que nous avons entendu est un récit d'espoir, de remise en route, d'ouverture d'un horizon fermé. Comme le baptême que nous avons aussi vécu ensemble ce matin est aussi un geste d'espoir. Alors, puissions-nous, dans nos réseaux, dans notre quotidien, voir et susciter de petits miracles et voir celles et ceux qui n'ont rien d'autre à crier que leur angoisse devenir sujets de leur propre vie, voir les générations entrer en dialogue, voir renaître l'espoir et nous retrouver avec toutes celles et ceux qui disent oui à la vie. Amen. Thank you.
poursuivons ces cantiques qui évoquent la dimension du baptême avec le cantique 202. Je vous propose de chanter les strophes 1, 2 et 3. Prenons place. Merci donc, Corinne, d'être avec nous ce matin, de nous avoir offert cette prédication. Parmi tous ces titres, elle est aussi doyenne de la faculté de théologie de Paris. Nous avons eu la version Ancien Testament. Nous attendrons la rentrée, le mois de septembre, pour avoir la version Nouveau Testament, peut-être, quoiqu'on n'est pas obligé, en étant professeur de Nouveau Testament, comme Valérie Nicolet Anderson, de prêcher sur un texte du Nouveau Testament, mais nous aurons le plaisir de l'entendre le 21 septembre. À l'issue de ce culte, vous êtes toutes et tous conviés à un verre fraternel qui se tiendra dans la grande sacristie. Donc ne repartez pas sans avoir fait preuve un peu de communion, sans avoir partagé un peu les récipients et les contenus, et avoir ainsi eu l'occasion de faire un peu mieux connaissance les uns des autres, à la fois pour embrasser les parents de Timothée, féliciter Timothée car il est en âge de recevoir les félicitations, prolonger les discussions avec Corinne et tout simplement faire connaissance les uns des autres. Il y a souvent des visages connus qui méritent d'être rencontrés. Ce midi, notre église accueille des personnes nécessiteuses, comme nous pouvons dire, avec le Centre d'Action Sociale Protestant. Donc, quelques-uns de nos paroissiens sont à la tâche en cuisine pour offrir un repas à 75 personnes. Et pour vous indiquer les activités de cette semaine, vous dire que nous aurons mercredi à 12h30 en face, justement, une lecture biblique, la première du cycle de cet été consacré à l'Alliance. Nous commencerons par l'Alliance avec Abraham, à la fois en Genèse 15 et en Genèse 17. Et donc chaque semaine, nous déploierons ce thème de 12h30 à 13h30. Dimanche prochain, notre culte à 10h30, ce sera l'occasion d'un autre baptême avec Alan, dont les parents sont là. Ce sera l'occasion pour vous d'entendre Jean Dietz prêcher, et puis Pascal Schneiker, qui est pasteur en Alsace, procédera également au baptême, et pour ma part, je serai dans la basilique ou la cathédrale de Saint-Claude, l'un des deux édifices. Ça sera sûrement au moins aussi humide qu'ici. Nous allons maintenant avoir ce temps d'offrande qui est l'occasion pour chacun d'exprimer à la fois notre reconnaissance et de donner à l'Église les moyens dont elle a besoin. Je vous informe qu'il y a à votre sortie une autre urne, non pas pour mettre votre argent, mais pour mettre vos idées de thèse pour l'Évangile. Vous savez que pour 2017, notre Église souhaite rédiger 95 nouvelles thèses. Toutes vos idées sont les bienvenues et elles trouveront place dans l'urne qui est à la sortie du temple. Nous nous unissons dans la prière. Certains de ta fidélité, nous te présentons ton Église et notre communauté de l'oratoire qui en est pour nous le visage immédiat. Nous te présentons Timothée et sa famille. Garde-les dans la joie de ce jour. dans cette posture de la reconnaissance. Nous voulons prier pour tous les enfants du monde, et en particulier pour ces enfants qui souffrent de la méchanceté des hommes, qui sont meurtris par la haine, qui sont blessés dans des guerres qui nous semblent d'une autre époque, mais qui sont pourtant leur actualité. Nous voulons te prier pour ces enfants qui naissent amputés d'une partie d'eux-mêmes, les enfants qui ne sont ni désirés ni aimés, les enfants orphelins, ceux dont les rêves sont brisés ou abîmés. Que ton amour veille sur tous les enfants du monde et que nous sachions donc être relais de cet amour qui permet de les faire grandir en grâce et en sagesse. Garde-nous tous dans l'esprit d'enfance et d'humilité, cet esprit d'ouverture qui ne cesse d'apprendre, cet esprit de curiosité qui nous permet d'entrer dans ce royaume que Jésus a prêché. Et c'est justement avec les mots que Jésus a laissés à ses disciples que nous nous levons pour dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. » Frères et sœurs, le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.